tendrée et farlée, bonjour à la belle-mère. C'est tous les noms que je vois pour l'instant, malheureusement. Il y en a d'autres, mais je ne vous vois pas. Bonjour à Jean-Gilbert, à Ozani. Bonjour à Thérèse. Bon lundi 6 juin 2022 à tous. Bonjour Maggie. Bonjour à mon père, à ma mère. Alors, journée bien ensoleillée, c'est pour ça que mes rideaux sont fermés. Parce que sinon, vous ne me verriez pas avec l'éblouissement de la lumière qui vient par la fenêtre. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Lucie. Salut Lynn, si vous lui parlez aujourd'hui. Buenos días, hermana Flori, hermano Luis. Merci Marie-André. Bonjour Pascal. Pascal, je pensais à maman ce matin. Veuillez, s'il vous plaît, la saluer de notre part et de ma part très personnelle aussi. Tu veux dire bonjour aux gens, toi? C'est beau. Ok, c'est fini. Merci Maggie. Une bien bonne semaine à vous aussi. Bonjour à tous ceux qui se connectent via la page internet de l'église. Comme d'habitude, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Bonjour Rosie. Bonjour Claude. J'étais content de voir Débo, Léa et Marcus hier. Bonjour Max, bonjour Noémie. Je priais pour vous cette nuit. Je me suis réveillé à un moment donné et puis je sentais de prier pour vous. J'espère que tout va bien pour vous deux, Max et Noémie. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et vous soutienne. Yaoi, ni hao. Yesu aini. Gilles, Joanne, bonjour. Hermana Susana. Que placer de tenerlas con, que tenerla con nosotros hoy mañana. Nathalie, bonjour. Que Dieu te bénisse, te fortifie, toi et les tiens. J'étais content de te voir aussi, Claude. Ne te sens pas exclu. Bonne semaine, la belle-mère. Encore 2-3 minutes avant qu'on commence officiellement. Donc tout à l'heure, j'ai salué le père et la mère. Maintenant, je salue la mère et le père. La sœur Daphné est au travail. Beaucoup de va-et-vient ce matin. Je l'ai amenée à la garderie, je l'ai amenée à sa deuxième garderie, puis je l'ai ramenée à sa première garderie. Puis je suis revenu ici. Et il y avait un arrêt avant, en tout cas. Bien des péripéties ce matin, mais une belle matinée. Dieu a permis que ce soit productif dans plusieurs aspects. Et j'ai reçu des thématiques d'enseignement pour l'automne, en fait. On rend grâce à Dieu. Oh, Evelyne. Que Dieu te bénisse, Evelyne. Je dois t'avouer quelque chose. Toi et ta sœur, vous êtes parmi les plus jolies jeunes filles que je connaisse. Que Dieu te bénisse, Evelyne. Et puis, on prie que la fièvre puisse passer. Ça te permet d'avoir une petite journée avec maman, toi seule. Ça va être agréable, assurément, si tu peux mieux aller dans quelques instants. Effectivement, c'était Néma qui buvait son eau. Si tu regardes sur ma page Facebook, tu vas voir plusieurs photos de la demoiselle. Dalila, bonjour. Yaoi, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as enseigné le mandarin aux filles? Est-ce qu'elles parlent un peu? Janine, bonjour. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 2. On va poursuivre on va faire la suite de la prédication du pasteur Sergio. On va utiliser le même passage que lui cette semaine. Comme on a l'habitude de faire quand quelqu'un prêche le dimanche, on essaie de développer durant la semaine. Donc 2 Corinthiens 2, des versets 14 au verset 17. On va aborder peut-être les choses un peu différemment. C'est autre chose d'avoir 4 séances et d'en avoir une seule. Mais on se base sur ce même passage avec certaines grandes lignes aussi que le pasteur Sergio a pu aborder hier. Un minuscule peu. Ah, oh, c'est dommage. Faut passer plus de temps avec tes grands-parents. Je suppose, Evelyne, que tu apprendrais plus vite là-bas. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour, Denise. Cette fois-ci, c'est Denise de Laval. On espère que ça va bien et que vous avez eu un bon temps hier avec le pasteur Thévenot. Tu connais l'important, c'est bon à manger et merci. C'est l'important lorsque tu vas au restaurant et lorsque tu vas chez la grand-mère et le grand-père. Donc c'est déjà bien, Evelyne. Bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour Martha. Très content de ma petite conversation avec vous et la caissière. Alors on va prier et on va débuter. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de nous arrêter en début de journée pour étudier ta parole afin que celle-ci, Seigneur, puisse nous changer, nous transformer, nous nourrir, nous abreuver et nous bénir par tout ce que tu avais préparé pour nous de toute éternité. On sait que ce n'est pas le fruit du hasard, des circonstances, mais que c'est ton plan éternel qui se réalise encore ce matin avec l'enseignement que nous partageons. Alors je prie, Seigneur, que nous ayons tout le respect, toute la gratitude, et puis aussi, Seigneur, toute la disposition nécessaire pour recevoir ce cadeau éternel que tu déverses sur nous aujourd'hui. Bénis ma sœur, bénis mon frère, que tu puisses les visiter et répandre sur eux, Seigneur, ta bénédiction. On prie, Seigneur, de façon spécifique pour Evelyne qui n'est pas très bien ce matin. On te demande, Seigneur, de poser ta main sur elle et d'enlever, Seigneur, tout symptôme désagréable, de lui accorder santé, repos et une bonne journée, Seigneur, auprès de sa maman. Alors, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous dire ce matin et en toute chose que ton nom soit élevé. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 2. Comme j'ai dit tout à l'heure, on reprend le texte que le pasteur Sergio a utilisé hier. On va revoir certains éléments qu'il a eu à mentionner et on va en ajouter d'autres. On a un peu plus de temps que lui n'en avait. Lui, il a environ 1 heure le dimanche matin ou le prédicateur du dimanche matin. On a 1 heure pour développer un sujet. Là, nous, on a quatre séances d'une demi-heure ou 5 séances d'une demi-heure quand on est coincé un peu. Donc, on a un peu plus de temps pour élaborer. Mais c'est les grandes lignes du pasteur Sergio qu'on reprend avec la thématique répandre le parfum de Christ. Répandre le parfum de Christ. Alors, 2 Corinthiens au chapitre 2, les versets 14, 15, 16 et 17. La Bible nous dit: Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je reprends le verset du jour, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je répète, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Dans la thématique de cette semaine, donc, on parle du parfum de Christ. On va voir développer un peu ce que ça représente et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple du Seigneur, on est un peu ce sent-bon que le Seigneur dispose un peu partout autour de la ville et un peu partout là où on peut se trouver pour répandre le doux parfum de Christ dans cette société et dans cette génération. Au même titre où à un moment donné dans notre parcours, dans notre vie, il y a quelqu'un qui a eu à nous faire connaître le parfum de Christ, qui a eu à répandre cette bonne odeur de Jésus autour de nous et qui nous a attirés à Christ, nous avons cette même fonction dans notre société et dans la génération dans laquelle nous vivons, de répandre cette bonne odeur de Christ. Ce matin, dans le verset 3, dans le verset 14 plutôt, on va le diviser en 3 parties. La première partie, grâce soit rendue à Dieu. Deuxième partie, qui nous fait toujours triompher en Christ. Et enfin, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors la première partie, grâce soit rendue à Dieu. Pour ceux qui nous regardent peut-être pour une première fois, vous savez que le texte est pris du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament est écrit en grande partie en grec. C'est pour ça que lorsqu'on étudie les mots qui sont inscrits ici, on retourne un peu à leur étymologie, à leur sens grec, et on essaie de développer quelle pouvait être la pensée lorsque ces mots ont été mis les uns après les autres et lorsqu'ils ont été transmis pour la génération dans laquelle ces paroles ont été proclamées, mais aussi pour nous aujourd'hui. Donc, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue, ou des grâces qui sont rendues, c'est le terme charis en grec. C-H-A-R-I-S, charis. C-H-A-R-I-S, qui parle d'une reconnaissance. Une reconnaissance envers Dieu. Le terme Dieu, c'est le terme théos. T-H-E-O-S, ou théos. T-H-E-O-S, qui parle de ce qui a trait au seul et véridique, au seul et vrai Dieu, ou à tout ce qui est relié à ce Dieu-là. Donc, ses facettes, ses attributs, ce qui le compose, ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il prescrit, tout ce qui est rattaché à Dieu, ça s'est englobé par le terme Théos. Et ici, on nous dit en tout premier lieu, grâce soit rendue à Dieu. Et ça, c'est peut-être une notion qu'on oublie parfois. Oui, on loue Dieu, et oui, on adore Dieu. Mais ce n'est pas parce que je loue Dieu et que j'adore Dieu que par conséquent, je suis reconnaissant envers lui. Très souvent, on peut tout simplement faire une espèce de prière, une espèce de temps de cantique, de chant, où on fait une litanie d'adjectifs et de descriptifs de Dieu. On va dire combien il est grand, combien il est bon, combien il est doux, combien il est amour, combien il est puissant, combien il est sage, combien il est savant, combien il peut agir avec des exploits et des prodiges. Mais ce n'est pas parce que je fais les qualificatifs de quelqu'un que je suis nécessairement en train de le remercier ou que je suis nécessairement en train d'exprimer de la reconnaissance envers la dite personne. Et envers Dieu, c'est la même chose. On pourrait passer des journées et des journées à le louer et l'adorer, ça serait déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas parce que je le loue et je l'adore que je suis en train de lui dire merci. Et c'est peut-être un terme qu'on a oublié et un terme qu'il nous faudrait rétablir ou une attitude qu'il nous faudrait rétablir dans notre vie. La première pensée pour ce matin, c'est de savoir que nous devons être habités par un esprit de reconnaissance et de gratitude. Reconnaissance pour tout ce que Dieu fait, reconnaissance pour tout ce que Dieu est. Gratitude, donc cet esprit de remerciement, cet esprit qui reconnaît qu'il a reçu une grâce, un cadeau de Dieu, et qu'il exprime les sentiments qu'il habite en recevant ce cadeau. C'est un peu comme quand c'est votre anniversaire. Les gens vous donnent des cadeaux. Ça serait très malvenu et très mal perçu si en recevant un cadeau, vous ne disiez pas merci. Quelqu'un a bien emballé votre cadeau et la seule chose que vous dites, c'est « Ah » ou « Ah, d'accord ». Vous ouvrez le cadeau, vous ouvrez la boîte et la seule chose qu'on entend de vous, c'est « D'accord, ah oui, c'est ça. » Sans jamais dire merci. Le remerciement, la gratitude, est à la base de la politesse. C'est un prérequis de base dans nos relations interpersonnelles. Quelqu'un t'amène un café au travail, tu dis merci, et parfois même tu vas rajouter « Ah, c'est vraiment gentil, merci. » Quelqu'un va partager son lunch avec toi le midi, et tu vas exprimer ta reconnaissance. Il devrait en être de même avec Dieu, que nous ayons cette habitude, ce réflexe de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu, d'avoir cette nature de quelqu'un qui sait apprécier ce que Dieu fait, ce que Dieu dit et comment Dieu intervient dans notre vie. Dans quelques instants, on va même pousser ça un peu plus loin dans un aspect avec une phrase que le pasteur Sergio a eu à mentionner hier. Mais notre première notion, c'est donc de dire, nous devons avoir cette nature de gratitude, cette nature reconnaissante en nous. Savoir remercier Dieu. Oui, le louer. Oui, l'adorer. Oui, l'invoquer. Oui, le prier. Mais aussi le remercier. Et ici, Paul va inviter l'Église de Corinthe à avoir cette attitude de remerciement envers Dieu. C'est probablement une chose que vous aurez à faire aujourd'hui et que nous aurons aussi à développer dans notre prière tout à l'heure. Alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. On ne le remercie pas simplement parce qu'il nous fait triompher, mais on le remercie notamment parce qu'il nous fait triompher. Le terme « toujours », et on va y aller avec trois termes importants, « toujours triompher Christ ». Donc « toujours », c'est le terme « pantote », « pantote », « p-a-n-t-o-t-e », « pantote », qui veut dire « en tout temps, en toute époque et constamment ». Et c'est important de faire la différence entre « en toute époque » et constamment. Parce qu'en toute époque, ça pourrait aussi dire que de façon sporadique, dans chacune des époques, de façon tout à fait délimitée, une occasion par époque, il nous ferait triompher. Ici, la pensée que Paul est en train de communiquer avec l'Église de Corinthe, c'est que Christ nous fait toujours, en toute époque et en tout temps, de chacune de ces époques, en tout instant, en toute seconde, en toute milliseconde, que, si le terme existe, qu'on pourrait traverser, quelle que soit l'époque où nous sommes, quelle que soit la saison où nous sommes, Christ nous fait toujours triompher. Triompher, le terme triumph beuo, qui s'écrit T-H-R-I-A-M-B-E-U-O. Je répète, parce qu'il y a des gens qui prennent les notes. T-H-R-I-A-M-B-E-U-O. Qui veut dire davantage que simplement avoir la victoire. Dans la traduction en français, triompher, ça voudrait dire simplement posséder la victoire ou être déclaré vainqueur. Dans le terme « triumph beo », on amplifie la notion de diriger quelqu'un vers une victoire ou diriger quelqu'un vers un triomphe. C'est la notion « faire triompher ». Alors, ça veut dire deux choses pour toi et pour moi. Que le triomphe n'est pas dû à toi et ta capacité à accéder au triomphe ne vient pas de toi. C'est Christ qui te permet de triompher. C'est Christ, le seul et l'unique, qui te permet d'avoir la victoire. Très souvent, on se comporte avec le Seigneur un peu comme si on était des collègues dans la victoire. Mais en fait, Dieu peut se passer de nous et la victoire sera obtenue. Mais nous, on ne peut pas se passer de lui pour obtenir la victoire. Voyez la différence? Christ peut tout à fait faire sans nous et la victoire aura lieu. Mais nous, sans Christ, il est impossible d'avoir la victoire. Voilà pourquoi Paul va insister sur la notion que notre victoire est tributaire de Dieu. Notre victoire est tributaire de Christ. Être reconnaissant en sachant que sans lui, nous ne pourrions pas prétendre à la victoire. Être reconnaissant du fait que nous savons, nous admettons et nous confessons effectivement savoir que sans Christ dans nos vies ne seraient que des échecs. Et triomphe en Christ, Christ qui est en grec Christos, C-H-R-I-S-T-O-S, donc c'est Christ avec O-S rajouté à la fin, Christos, qui veut dire celui qui est oint, celui qui est appointé, celui qui a été mandaté pour une chose particulière. Et parmi les mandats de Christ, il y a celui de nous faire acquérir, de nous amener à acquérir la victoire. Une des facettes qui vient avec la présence de Christ dans notre vie, c'est d'avoir cette certitude que nous sortirons vainqueurs. Et c'est là où je vous disais, il y a une phrase que le pasteur Sergio a dit hier qui était à mes yeux importante. Il va dire, un triomphe dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu ne fait pas, et dans tout ce que Dieu fait plus tard. Il y a des choses dans lesquelles Dieu agit instantanément. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur dit « Non, je n'agis pas. Je refuse d'agir dans ce cas-ci. » Et il y a d'autres choses où le Seigneur dit « J'agis, mais pas maintenant. Un peu plus tard. » Mais dans chacune de ces trois facettes, « J'agis, je n'agis pas ou j'agis plus tard. » Nous sommes toujours vainqueurs. Et ça, c'est une notion qu'on tend à oublier. On a l'impression que nous sommes vainqueurs simplement quand la guérison arrive. Tu es malade et puis tu pries, la guérison s'installe chez toi, alors tu es vainqueur. Mais ça voudrait dire que si tu es malade, tu pries et que la guérison ne vient pas, tu n'es pas vainqueur? Ça serait absolument contredire les versets dans Hébreux 11 où on nous parle de ces frères et des sœurs qui ont refusé même d'obtenir la délivrance ici-bas sur terre, sachant celle qui leur était promise dans les lieux célestes lorsque nous serons dans l'éternité avec Christ. Paul va dire « La mort m'est un gain ». Il va dire à un moment donné « Voilà, je suis ballotté entre le désir de passer dans l'éternité parce que là, je vais voir mon Seigneur pour l'éternité et je sais que pour moi, ça serait un gain. » Et la responsabilité que j'ai avec l'Église aujourd'hui. Paul va dire « Je suis ballotté entre les deux. Je sais que pour moi, personnellement, ça serait un gain de quitter ce monde et d'aller avec Christ, mais en raison de l'Église, en raison de mes contemporains, il est préférable que je sois encore pour un temps ici. » Alors Paul était en train de dire, entre vivre ici ou partir dans l'éternité est un gain. Donc entre vivre et mourir, il va dire mourir, pour moi c'est un gain, mourir c'est une victoire. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être victorieux sans la guérison. Quand, malgré la maladie, nous restons fermes dans notre foi, malgré l'épreuve, nous restons fermes dans notre foi, même si nous n'avions pas la délivrance de notre épreuve, lorsque nous restons fervents, attachés à Christ, nous sommes victorieux. Christ en sort victorieux. Mais lorsque sous l'épreuve je cède, lorsque sous l'épreuve je capitule, je n'ai assurément pas la victoire. Alors il est bien possible, mon frère, il est bien possible, ma sœur, que tu représentes la victoire de Christ dans ta fidélité sous l'épreuve. Dans ta fidélité, malgré la non-résolution de ta problématique, ne cédons pas aux mensonges du diable qui qualifie et qui quantifie la victoire simplement dans l'obtention de réponses favorables de la part de Dieu. Quand Dieu dit « non, je n'agis pas », pour les raisons qui sont les siennes, et que nous disons « Seigneur, tout ce que tu fais est parfait », pourquoi disons-nous « tout ce que tu fais est parfait » Pas pour avoir une belle tournure de phrase, pas pour afficher une espèce de fausse soumission à Dieu, une espèce de fausse obéissance à Dieu. Lorsque je dis « tout ce que Dieu fait est parfait », en tout temps, c'est que je sais que tout ce qui va aboutir de la décision de Dieu sera bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà un verset qu'on mentionne régulièrement. Mais on le mentionne régulièrement comme si tout concourt au bien voulait dire « ben tout ce que tu as demandé va se passer. Tout ce pour quoi tu as prié va se manifester. » Mais parfois, Dieu ne veut pas aller dans le même sens que toi. Parfois, Dieu veut aller dans le même sens que toi, mais avec un délai, pas aujourd'hui. Et parfois, il décide, non, je n'irai pas là. Je ne répondrai pas à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette prière n'est pas profitable s'il y répond. Je me rappelle un témoignage de quelqu'un dans une église, je crois que c'était à Madrid. C'était un monsieur qui était aveugle. Et il visitait l'église depuis un certain temps. Il était fidèle, un croyant convaincu. Et il priait, et il priait, et il priait que la vue lui soit rendue. Il avait déjà vu, puis il avait perdu à cause de la maladie. Il avait perdu la vue, il était rendu aveugle. Et il priait, « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. » Et ça tardait, et ça tardait. Un jour, Dieu est intervenu, et le monsieur qui était aveugle s'est mis à voir. Le grand malheur dans ça, le grand malheur dans ça, c'est que son pasteur disait quelque temps plus tard qu'à l'intérieur de 6 mois, le monsieur avait quitté l'église, et jouait aux cartes maintenant dans les bars, au lieu de venir à l'église. Je vous parle souvent du roi Ézéchias. Ézéchias qui va être averti de la part de Dieu comme quoi, voici tu vas mourir. Et lui il plaide, non Seigneur, tu vois comme j'ai été fidèle, tu vois ce que j'ai fait pour toi, tu vois comme j'ai été intègre à ce que tu as demandé, tu peux pas me laisser mourir maintenant, je dois vivre encore. Et il parlemente et il parlemente et il parlemente avec Dieu. Dieu lui accorde 14 années de plus à sa vie. Mais ces 14 années l'ont perdu. Il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu pendant ces 14 années. Alors qu'avant ça, il était intègre. Mais ce rajout de temps, entre guillemets, il l'a utilisé à sa perte. Voilà pourquoi moi, dans ma propre condition, à travers la maladie, lorsque le diagnostic de cancer m'avait été donné il y a maintenant au-dessus de 7 ans, on comprenait dès la première journée que c'était un cancer de stade 4, puisqu'on n'avait pas trouvé la source du cancer, mais on avait trouvé des métastases ailleurs qu'à la source du cancer. Il fallait encore faire une investigation pour trouver quelle était cette source du cancer. Mais on savait dès le départ que c'était un stade 4. Ça avait été très clair pour nous. Mais dans ma prière le matin, mes mots que j'ai prononcés, ce n'était pas un bon français. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, c'est correct. » Et ça, c'est juste québécois, c'est correct. En fait, c'est « Seigneur, c'est OK. Seigneur, c'est bon. Tout ce que tu fais est bon. » Je disais à Dieu, « Seigneur, que tu répondes ou que tu ne répondes pas, que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas, que tu me gardes ici ou que tu m'amènes dans l'éternité, c'est correct. Pourquoi j'ai fait cette prière ?» Parce que j'avais en pensée le roi Ézéchias qui s'était perdu. J'avais en pensée cet homme aveugle qui avait fini dans les bars. Et je disais à Dieu, « Regarde, Seigneur, je ne veux même pas rajouter une fraction de seconde à ma vie, si cette fraction de seconde est pour me perdre. » Alors, des fois, le Seigneur peut décider de ne pas intervenir parce qu'il sait que s'il obtempère à ce que tu demandes, s'il répond favorablement à ce que tu demandes, cette chose-là peut t'amener à la perdition. Et à la base, la vue n'est pas une mauvaise chose. À la base, demander d'être guéri n'est pas une mauvaise chose. Mais que vas-tu faire avec la vue lorsqu'elle va t'être rendue? Est-ce que tu vas effectivement contempler la création de Dieu et adorer Dieu pour le restant de ton existence? Ou tu vas te servir de ces yeux que Dieu te donne pour aller les poser là, pour aller poser ton regard là où il ne doit pas se poser? Pour aller faire des choses que Dieu ne voulait pas pour toi, pour te détourner du chemin et du parcours que Dieu avait pour toi. Si Dieu te guérit aujourd'hui, assurément tu seras reconnaissant sur le moment présent. Mais est-ce que cette vigueur qu'il te donne, cette santé qu'il régénère, est-ce qu'il se pourrait qu'éventuellement tu ne sois plus aussi dépendant de Dieu? Aussi aux aguets de Dieu, aussi regard fixé sur Dieu que lorsque tu étais malade. Est-ce qu'il se pourrait qu'avec une vie renouvelée, avec une santé renouvelée, que tu profites de cette vigueur nouvellement acquise ou de nouveau acquise? Pour t'éloigner de Dieu, ça serait un grand drame. Voilà pourquoi dans ma prière personnelle, et je vous invite à faire de même, c'est d'être reconnaissant dans tout ce que Dieu fait, sachant que tout ce qu'il fait est parfait. Mais aussi dans les décisions où Dieu dit « Non, je n'interviens pas » ou « Non, je ne réponds pas favorablement à ta prière »« Non, je n'obtempère pas à ta prière ». Pourquoi? Parce que là aussi, ce que Dieu fait est parfait. Quand je fais une chose, quand je pose une action ou quand je ne pose pas une action, c'est une même décision. Je décide de faire ou je décide de ne pas faire. Et toutes les décisions de Dieu, tous les jugements de Dieu sont bons. La pensée de Dieu est parfaite, même quand cette pensée ne correspond pas à ta pensée. Alors si Dieu te guérit, gloire à Dieu. Si Dieu ne te guérit pas, peux-tu toujours dire « Gloire à Dieu ». Job va dire « Dieu a donné, Dieu a enlevé, que le nom de l'Éternel soit élevé ». Sommes-nous capables de dire « Seigneur, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, gloire à ton nom ». Dans cette prière où je disais à Dieu « Seigneur, c'est correct », je rajoutais aussi Seigneur, en fait, la veille, j'avais prêché sur la bonté de Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, hier, j'ai dit que tu étais bon. Je le dis encore aujourd'hui. Même avec un verdict fatal, même avec un verdict où on annonce ma mort et ma fin. La mort n'est pas une défaite. La non-guérison n'est pas une défaite. La non-réponse de Dieu n'est pas une défaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et quand je suis collé, attaché, et lorsque j'embrasse la volonté de faire ou de ne pas faire de Dieu, je reste dans la victoire. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mieux vaut être malade le restant de mon existence que d'oublier Dieu. Et voilà pourquoi j'expliquais il y a deux dimanches, je crois, tous les malaises subséquents ou que j'ai encore aujourd'hui. Le fait que je suis malade, un repas sur deux Et quand je parle de malade, c'est une grosse gastro, un repas sur deux. À tel point où je dois aller me coucher, où je ne peux pas fonctionner. Et je disais, je veux pas que Dieu enlève ça au risque que j'oublie tout ce par quoi je suis passé. Jacob s'est battu avec l'Éternel pour avoir une bénédiction et Dieu a déboîté sa hanche. Et pendant le restant de sa vie, Jacob a boité. Mais à chaque fois qu'il faisait un pas, à chaque fois qu'il mettait un pied devant l'autre, ça lui rappelait, je me suis battu avec Dieu et Dieu m'a béni. Ça lui rappelait cette rencontre intime avec Dieu. Et dans mon cas, je suis un peu dans la même pensée où je dis, regarde Seigneur, ça ne me dérange pas de rester dans cet état-là pour le restant de ma vie. Mais je ne veux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas oublier que ma vie, je te la dois. Que si je suis encore vivant aujourd'hui, ce n'est qu'à cause de toi. Alors oui, Seigneur, ce que tu fais est parfait. Ce que tu ne fais pas est tout aussi parfait. Et ce que tu retardes dans le temps est tout aussi, tout aussi, tout aussi parfait. Et pour tout cela, en tant qu'enfant de Dieu, je rends grâce à Dieu et je le remercie. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es, tout d'abord. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de pouvoir nous approcher de toi. Nous voulons apprendre, Seigneur, à être reconnaissants. Parfois, on se comporte un peu comme des enfants gâtés, où on oublie de dire merci. On nous sert un repas et on oublie de dire merci à celui qui nous a servi ou à celle qui nous a servi. On nous amène un breuvage et on oublie de dire merci parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on nous amène un breuvage. On est tellement habitué qu'on finit par prendre la chose pour acquise. Seigneur, c'est de l'ingratitude. C'est être ingrat envers ceux qui nous donnent. Et parfois, malheureusement, on l'est aussi à ton égard. Alors je prie, Seigneur, que moi-même, mais aussi ma sœur et mon frère, nous puissions retourner à des sentiments de gratitude et de reconnaissance à ton égard. Gratitude et reconnaissance, non seulement pour tout ce que tu es, mais tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas, ou tout ce que tu fais plus tard. Parce que peu importe, Seigneur, quelle est ta décision sur une chose, d'agir instantanément, de refuser d'agir, ou de retarder ton action à plus tard, tout cela est parfait et tout cela est bon pour nous. Tu nous aimes et nous le savons. Alors quand nous recevons notre délivrance de façon instantanée, c'est merveilleux. Mais parce que nous savons qui tu es, parce que nous savons les sentiments qui t'habitent à notre égard, parce que nous savons que tu prends soin de nous, alors assurément, même quand on ne reçoit pas la délivrance qu'on voulait de ce côté-ci de l'éternité, c'est encore là, totalement, parfaitement, parfait. Merci simplement pour tout ce que tu fais. Merci simplement pour les décisions que tu prends à notre égard. Permets-nous, Seigneur, d'être conscients de la grâce que nous avons d'être près de toi et de la grâce que nous avons du fait que tu veilles sur nous. Si tu devais obéir à toutes nos requêtes, obéir à toutes nos demandes, assurément, on n'est pas parfait. Et parfois, on prie avec notre propre volonté, avec notre propre connaissance qui est faillible, avec nos propres sentiments qui foncièrement ont été tachés par notre péché. Mieux vaut, Seigneur, te confier notre vie, la mettre entre tes mains, pour que tu fasses comme tu veux, ce que tu veux, quand tu veux, pour les raisons qui sont les tiennes. Et en tout cela, nous te disons, Seigneur, c'est correct. C'est OK. C'est bon. Et nous te disons merci. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà qui termine notre temps ce matin. On se retrouve ce soir avec le pasteur André pour le cours sur l'Épître aux Éphésiens. On vous invite à être là donc ce soir à partir de 19h sur la page Facebook de l'Église et puis sur toutes les autres plateformes que l'Église utilise. Facebook uniquement, ça c'est le matin où on ne diffuse nos bénédictions matinales que sur Facebook, mais les autres diffusions de l'Église sont faites sur toutes les plateformes. Alors ce soir, vous avez multiplateformes pour vous connecter à 19h. Sinon, nous on se retrouve demain matin pour la suite de cet enseignement sur 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 17. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée dans la connaissance de ce que Dieu fait et parfait en tout temps, en tout lieu, quelle qu'en soit la manifestation. Alors, je prie que vous puissiez être reconnaissant, être rempli de gratitude aujourd'hui envers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.